Est-ce qu'il nous arrive, consciemment ou non, de rechercher notre sécurité dans nos biens, dans nos revenus, nos comptes bancaires, dans nos biens matériels, dans notre immobilier, dans toutes les assurances que nous pouvons contracter? Est-ce qu'il nous arrive de mettre notre fierté dans nos richesses? Comment savoir si nous sommes très ou peut-être même trop attachés à l'argent? Avons-nous le désir de posséder toujours davantage? L'insatisfaction nous guette-t-elle? Ou le manque de reconnaissance et de contentement? Sommes-nous enclins à la générosité et à la libéralité? Décidément, l'Ecclésiaste aborde bien des sujets qui nous questionnent aujourd'hui encore, et dans notre parcours dans ce livre, nous en sommes au chapitre 5. Donc le diaporama va s'afficher. Chapitre 5, les versets 7 à 19. Avec le texte biblique qui vous est proposé. Voilà. Ecclésiaste 5, les versets 7 à 19. Si tu vois dans une province l'oppression du pauvre et la violation du droit et de la justice, ne t'étonne pas. Ah, ça a disparu. Bon, je vais le lire de toute façon, on va tout reparcourir après. Voilà, ne t'étonne pas trop de la chose, car quelqu'un de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en a de rangs plus élevés encore. Mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays, que pour les champs, on se soumette au roi. Il y a un souci là, ça ne passe pas si. Celui qui aime l'argent ne sera pas satisfait par l'argent, pas plus que celui qui aime l'abondance ne sera satisfait de son revenu. Cela encore est vanité. Quand les biens se multiplient, les profiteurs se multiplient aussi. Et quel avantage en tire son possesseur si ce n'est de voir cela de ses propres yeux? D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger? Mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un terrible malheur que j'ai vu sous le soleil. Les richesses conservées par son possesseur font son malheur. Si elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart, il repart aussi nu qu'il était venu, et il n'emporte rien de son labeur avec lui. Cela aussi est un terrible malheur. Il repart comme il était venu. Et quel avantage a-t-il donc à travailler pour du vent? Verset 16. De plus, tous ces jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'irritation. Verset 17. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et approprié pour l'homme de manger, de boire et de prendre plaisir dans le labeur qu'il accomplit sous le soleil pendant les jours que Dieu lui donne à vivre, car c'est là sa part. Et à tout homme à qui Dieu donne des richesses et des biens, la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de se réjouir au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantira pas sur sa vie, car Dieu le tient occupé avec de la joie dans son cœur. Dans ce texte-là que j'ai découpé en trois parties avec ces trois diaporamas, l'Ecclésiaste nous invite à réfléchir à notre rapport à la pauvreté et à la richesse. Et dans les deux premiers versets de notre texte, les versets 7 et 8, L'Ecclésiaste évoque ce qu'on pourrait appeler, et que j'emprunte au commentaire de Sylvain Romerovski, la hiérarchie oppressive et ses effets sur la personne du pauvre. Déjà, un peu plus tôt dans son livre, au chapitre 4, l'Ecclésiaste avait parlé de cette oppression, de la hiérarchisation de la société, avec la loi du plus fort. Et il revient là-dessus dans ces deux versets. Je relis le verset 7. « Si tu vois dans une province l'oppression du pauvre et la violation du droit et de la justice, ne t'étonne pas trop de la chose. Car quelqu'un de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. » La tendance à l'oppression est quelque chose qui a toujours existé. J'entends l'oppression par le pouvoir, cette oppression hiérarchisée du pouvoir. Et c'est intéressant de se rappeler ce que le prophète Samuel avait dit au peuple alors que celui-ci demandait un roi. Je lis dans 1 Samuel chapitre 8. « Voici les droits du roi qui règnera sur vous. » Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleures de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers, et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes, il la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail, et vous-même deviendrez ses esclaves. » Peut-être il espérait ici que le peuple allait se raviser en demandant un roi, mais finalement pas. Et lorsqu'une telle société avec une hiérarchie en vient à se dérégler, eh bien les conséquences sont terribles. Tout le monde, des personnes subalternes jusqu'au roi qui est tout en haut, tout le monde cherche son propre bien. Et la population qui est en bas de l'échelle, c'est souvent celle qui en pâtit le plus, qui en subit les conséquences. Et c'est ce que le peuple d'Israël a connu dans la suite de son histoire et que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas manqué de pointer du doigt. L'Ecclésiaste évoque ce qu'on pourrait appeler ce pouvoir hiérarchisé, un pouvoir qui est échelonné sur une multitude de niveaux. Un pouvoir qui est tellement fragmenté que les personnes les plus pauvres, et qui sont souvent aussi les majoritaires en nombre, dépendent très souvent d'une personne dans la hiérarchie qui n'a pas la main pour résoudre leurs problèmes. Parce que la personne qui pourrait régler la situation, elle se trouve trop haut, d'un rang trop haut dans la hiérarchie. Il y a toujours un responsable, un chef qui est au-dessus de celui à qui nous avons affaire. Et bien souvent, c'est celui qui est tout en bas de l'échelle, qui paye les conséquences de ce pouvoir hiérarchisé. Dans certains cas, c'est l'administration qui est tellement complexe qu'on a tendance à se perdre dans tout un tas de démarches. Et tout cela, c'est toujours au détriment des administrés. Qui d'entre nous n'a jamais vécu la frustration que peut engendrer l'administration, la bureaucratie, la paperasserie, etc. Quand l'Ecclésiaste dit ici que quelqu'un de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre, à la fin du verset 7, d'un autre qui est de rang plus élevé, le texte peut vouloir dire deux choses. Soit le subordonné est couvert par un supérieur, ce qui expliquerait peut-être parfois aussi son manque de diligence, « je suis couvert par mon responsable », soit que ce subordonné a un supérieur qui exerce des pressions sur lui, et ça peut expliquer aussi parfois, la corruption interne à l'administration. Le pouvoir qui devrait normalement être au service du droit et de la justice s'exerce bien souvent de telle sorte que les personnes défavorisées soient in fine lésées. Et devant la loi, malheureusement, il y a souvent deux poids, deux mesures. Et c'est souvent aussi le pauvre, sinon toujours le pauvre, qui en pâtit. Un commentateur écrit « Un des facteurs de l'oppression, c'est le fait que la classe politique et administrative est solidaire et qu'un administrateur injuste trouve toujours un supérieur pour le couvrir. » Fin de citation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En même temps, l'Ecclésiaste dit « Si tu vois dans une province l'oppression du pauvre et la violation du droit et de la justice, ne t'étonne pas trop de la chose. » C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde dans lequel nous vivons. Non pas qu'il ne faille pas chercher à réformer ces choses-là qui ne vont pas, mais l'Ecclésiaste nous dit plutôt « Mais soyez pas naïfs. Nous vivons dans ce monde-là qui est marqué par cette hiérarchie oppressive avec la personne du pauvre ou de condition modeste qui, in fine, en souffre et en pâtit les conséquences. » Le verset 8 est assez difficile à traduire, et d'ailleurs les traductions, si vous en avez sous vos yeux, disent quasi toutes que c'est très difficile, le texte en hébreu est assez obscur à comprendre, etc. Il y a même un commentateur qui écrit au sujet de ce verset 8, je cite, « Parvenir à une certitude quant au sens réel du texte paraît désespéré, c'est comme tenter d'attraper le vent, pour reprendre les mots qu'on trouve bien souvent dans l'Ecclésiaste, la poursuite du vent. » En tout cas, selon la traduction proposée dans le texte ici, que je relis, mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays, que pour les champs, on se soumette au roi. Dans cette traduction et l'interprétation, l'Ecclésiaste soulignerait que malgré les travers qu'il vient de dénoncer dans le verset précédent, il vaut mieux quand même, semble-t-il, qu'on se soumette au roi plutôt que de sombrer dans l'anarchie, et il en va de l'intérêt du pays. Il y a bien d'autres interprétations qui ont été proposées de ce verset 8, mais quelle que soit finalement la traduction et l'interprétation retenue, il nous faut espérer en un bon roi qui prend soin de ses administrés, qui veille sur eux. Avec ces versets 7 et 8, l'Ecclésiaste nous enseigne que la hiérarchie en soi, elle est nécessaire. Elle est nécessaire dans toute structure, dans toute organisation. Il faut qu'il y ait une autorité qui soit exercée pour éviter que ça parte dans tous les sens. Ceci étant, il ne faut pas que l'autorité soit exercée au détriment des autres, des subalternes et des administrés. Si ce n'est pas dit explicitement ici, il y a, me semble-t-il, une invitation, en tout cas on la trouve bien ailleurs dans la parole de Dieu, une invitation à prier pour nos autorités. Que ce soit pour nos autorités sur le plan local, national et même européen. Et je mentionne le cadre européen parce que nous aurons bientôt, là, dans 2 mois, des élections européennes, le 9 juin. Prions pour cela et allons voter. Après avoir parlé de la pauvreté, l'Ecclésiaste évoque la richesse dans les versets 9 à 16. Et il s'adresse à ceux qui seraient tentés de dire « J'en ai marre de toute cette hiérarchie oppressive des versets 7 et 8. Si seulement j'étais riche, si seulement je n'étais pas en bas. » L'Ecclésiaste veut montrer ici qu'il y a des pièges à avoir de l'argent, à avoir peut-être beaucoup d'argent, ou à rechercher à avoir toujours plus d'argent. 4 pièges. Le premier, dans le verset 9, l'illusion de la satisfaction. Je relis, « Celui qui aime l'argent ne sera pas satisfait par l'argent, pas plus que celui qui aime l'abondance ne sera satisfait de son revenu. » Cela encore est vanité. La richesse laisse insatisfait. Plus on en a, plus on en veut. Un journaliste a posé la question à un certain John Rockefeller, l'homme le plus riche de son temps, et lui a dit « Monsieur Rockefeller, quand est-ce que vous aurez assez d'argent ?» Et ce monsieur de répondre « Quand j'aurai un dollar de plus. » Ça ne s'arrête jamais. On en veut toujours plus. Le riche veut toujours davantage. La possession des richesses ne fait que aiguiser l'appétit. Ce serait s'illusionner, et même c'est un mensonge, que de penser que si on a plus d'argent, on sera plus heureux, on sera rassasié dans tous nos besoins. Parce qu'en fait, l'argent appelle toujours plus d'argent, toujours plus de biens. Comme le dit le verset 9 à la fin, « Cela encore est vanité ». Soyons lucides, l'argent ne rassasiera jamais notre cœur. Second piège, dans le verset 10, « Quand les biens se multiplient, les profiteurs se multiplient aussi. Et quel avantage en tire son possesseur si ce n'est de voir cela de ses propres yeux ?» Le deuxième piège, c'est l'illusion des nouvelles amitiés. Plus on a d'argent, plus on a de personnes autour de nous qui puisent dans cet argent. Plus on a d'argent, plus il faut trouver et payer des personnes pour s'occuper de notre argent, de nos comptes en banque, pour gérer notre patrimoine. Il faut investir, mais pour investir et savoir bien investir, il faut investir dans des conseillers qui vont nous dire où investir, comment investir et où ne pas investir. Il faut payer des comptables, des avocats, des notaires. Bref, il y a toute une flopée de personnes qui viennent puiser dans notre argent, sans parler des taxes et des impôts qu'il faut payer aussi. Et l'Ecclésiaste pense ici à toutes ces personnes qui se comportent comme des courtisans qui gravitent autour des riches, souvent par intérêt personnel, pour obtenir des faveurs, des services. Montrez que vous avez de l'argent et vous constaterez que le nombre de vos amis va augmenter en flèche. J'aime cette formulation empruntée à la Bible annotée, ce commentaire assez célèbre à la Bible annotée. La seule chose que le riche retire de sa fortune, c'est le chagrin de l'avoir dissipé par la nombreuse domesticité qu'elle lui impose et par les parasites qu'elle attire. Fin de citation. Des relations qui sont dictées par l'argent, ce n'est jamais bon. Et la conséquence, c'est que ça fausse grandement l'authenticité des relations, parfois même dans les familles, parfois aussi dans l'Église. L'illusion, donc, de ces nouvelles amitiés. Troisième piège, au verset 11. D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Ce troisième piège, c'est l'illusion de la sécurité. Celui qui travaille honnêtement et durement trouvera la paix dans son repos et dormira souvent plus sereinement. Le riche, quant à lui, comme dit le texte ici, son sommeil est bien souvent perturbé. Pour plusieurs raisons. Celle évoquée dans le texte, la satiété du riche ne le laisse pas dormir, laisse penser que le riche dort mal parce qu'il a trop mangé. Et la richesse amène à beaucoup d'excès sur le plan alimentaire ou la boisson. Et plus on mange, plus on boit, et plus les nuits sont parfois un peu difficiles. Il faut digérer tout ça. Un peu d'humour ici. Mais on peut aller plus loin aussi. Le riche dort mal aussi parce qu'il est préoccupé par ses richesses, par la peur de perdre ses biens, la peur de mal gérer ses biens. Est-ce que mes actions en bourse ne vont pas se casser la figure? Est-ce que les locataires de tous mes biens immobiliers vont bien payer leur loyer chaque mois? puis maintenant, la trêve hivernale, elle est terminée. Donc, c'est compliqué. Il y a des impôts à payer d'un côté, il faut que l'argent rentre de l'autre. Le riche dort mal parce qu'il est souvent en responsabilité, il doit penser à beaucoup de choses. Un chef d'entreprise doit être en charge de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs, et il faut arriver à gérer tout cela. Ça préoccupe et ça n'aide pas à dormir tranquillement et sereinement. Ceci étant, il est vrai que des personnes pauvres peuvent être aussi préoccupées par l'inquiétude. L'inquiétude du fait de la difficulté à nourrir sa famille. Inversement, on peut être riche et très bien dormir. Mais l'Ecclésiaste n'est pas ici en train d'envisager tous les cas de figure. Ce n'est pas son objectif. Il veut pointer du doigt que la richesse apporte aussi, et même souvent, son lot de difficultés. Autant il y a des inconvénients à être pauvre, autant, et c'est là-dessus qu'il insiste, il y a des inconvénients à être riche, et il ne faut surtout pas les occulter. Quatrième piège, l'illusion de la thésaurisation. Je relis les versets 12 à 16. Il y a un terrible malheur que j'ai vu sous le soleil. Les richesses conservées par son possesseur font son malheur. Si elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, il ne lui reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu et n'emporte rien de son labeur avec lui. Cela aussi est un terrible malheur. Il repart comme il était venu et quel avantage a-t-il donc à travailler pour du vent ? De plus, tous ces jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'irritation. Le fait de thésauriser, d'amasser toujours davantage. Une personne qui serait tentée de thésauriser pourrait finir par ne pas profiter de tout son argent. C'est comme si elle n'avait jamais eu tout cet argent qui est là à dormir sous le matelas. Probablement qu'une telle personne est rongée par l'anxiété de perdre tout ce qu'elle a. Et ça nous fait revenir un verset plus tôt avec cette illusion de la sécurité. Le verset 13 évoque ici le cas d'un riche qui a perdu ses biens. Peut-être une mauvaise affaire, il a tout perdu d'un coup et il n'a plus rien à léguer à son héritier. Il n'est pas rare que des personnes riches perdent subitement leur richesse, une mauvaise gestion par exemple, des crises économiques comme il y en a régulièrement dans l'histoire. Et bien souvent, de telles crises ont amené dans la misère des personnes qui étaient riches et du jour au lendemain, elles se sont retrouvées sans rien. Nous pouvons constater le même genre de problème avec les investissements en bourse. C'est vraiment prendre des risques. Et en même temps, les risques sont parfois nécessaires, et l'Ecclésiaste en parlera un peu plus tard dans son livre, à la fin du chapitre 10 et au chapitre 11. L'illusion de la thésaurisation, ce danger ici, cette thésaurisation qui peut laisser finalement peu de place à la générosité, à la libéralité. Une telle personne va connaître un double malheur. Celui d'avoir travaillé en se donnant beaucoup de mal, versets 14 et 15. Et en plus, cette personne mourra dans la pauvreté après la perte de ses biens, verset 16. Quelle vanité de penser que en thésaurisant, on s'amasse un trésor. Quelle vanité. Comme l'Ecclésiaste l'a dit précédemment, le linceul n'a pas de poche. Nous repartirons de ce monde aussi nus que comme nous y sommes entrés lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère. L'acteur de cinéma Jim Carrey a dit ceci, « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre, faire tout ce qu'il a jamais rêvé, afin qu'il puisse voir que ce n'est pas la réponse. Alors, je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça. La réponse à quoi ? Au bonheur ? Peut-être, oui. En tout cas, ce n'est pas la réponse au bonheur, ce n'est pas la réponse à la satisfaction, ce n'est pas la réponse à tout ce qu'on pourrait vouloir dans ce monde-ci. Et derrière les personnes que nous décrivons comme fortunées, il y a tellement de morosité, de tristesse, de chagrin, de souffrance, comme le dit la fin de ce verset 16. On connaît ce proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». La richesse peut être une bonne chose, mais la richesse peut être aussi source de bien des inquiétudes et faire le malheur de ceux qui en possèdent. Ne tombons pas donc dans ces quatre pièges que l'Ecclésiaste relève ici. L'argent n'est pas une réponse au problème, mais plutôt l'origine de bien des problèmes. Et l'Ecclésiaste termine avec une sorte de conclusion dans les versets 17, 18 et 19. Voici ce qu'il dit. « Voici ce que j'ai vu. Il est bon et approprié pour l'homme de manger, de boire et de prendre plaisir dans le labeur qu'il accomplit sous le soleil pendant les jours que Dieu lui donne à vivre, car c'est là sa part. Et à tout homme à qui Dieu donne des richesses et des biens, la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de se réjouir au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantira pas sur sa vie, car Dieu le tient occupé avec de la joie dans son cœur. » On retrouve ici ce refrain qu'on retrouve plusieurs fois dans ce livre de l'Ecclésiaste. C'est déjà la quatrième fois, après le chapitre 2, le chapitre 3, où l'Ecclésiaste avait mentionné aussi ce refrain sur le bonheur. Il nous fait part ici de son analyse, de sa réflexion, comme il le fait bien des fois. « Voici ce que j'ai vu. » On se souvient, l'Ecclésiaste est quelqu'un qui regarde, qui observe le monde qui l'entoure, qui analyse, qui réfléchit. « Et voici ce que j'ai vu. » Au verset 17. Plutôt que de miser sur la richesse pour trouver le bonheur, l'Ecclésiaste nous invite bien plutôt à jouir et profiter des plaisirs que la vie offre. Que nous pouvons prendre plaisir dans le labeur que nous accomplissons sous le soleil, dans la vie présente, maintenant. C'est là notre part, dit la fin du verset 17. Parfois, on peut se laisser écraser par tout ce que la vie peut apporter de négatif et on ne voit plus du coup le positif. On ne voit plus tous ces plaisirs que la vie peut offrir, car il y en a. Profitons de chaque jour qui nous est donné de vivre. Chaque jour que Dieu nous donne est une grâce. Commençons nos journées en remerciant Dieu pour cette nouvelle journée. Cette journée qui contiendra son lot de difficultés, mais certainement aussi qui comprendra ces bonnes choses qui nous viennent de Dieu. Car ce sont des dons de Dieu, comme nous le lisons dans le verset 18. Et à tout homme à qui Dieu donne des richesses, des biens, à tout homme à qui Dieu donne la possibilité d'en profiter, à tout homme à qui Dieu donne d'en retirer sa part et de se réjouir au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. La possibilité même d'en profiter nous vient de Dieu. On peut presque noter un paradoxe ici. Dans les versets 9 à 16, on vient de voir qu'avoir des richesses, des biens, même sans être la personne la plus riche au monde, mais d'avoir des richesses, ça présente bien des pièges, mais en même temps, la capacité d'en profiter est un don de Dieu. Dieu n'était pas mentionné dans les versets précédents. Il est présent seulement à partir ici du verset 17 jusqu'au verset 19. Et deux fois dans le verset 18, il est mention de Dieu qui donne. C'est un don de Dieu. Ce sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui nous donne notre nourriture chaque jour. C'est Dieu qui nous donne notre travail. C'est Dieu qui nous permet d'avoir un toit pour se loger, qui nous donne de quoi se vêtir. C'est Dieu qui nous donne un toit pour faire nos cultes. C'est Dieu qui nous donne de quoi nous véhiculer. Et ainsi de suite. C'est Dieu qui nous donne. Ce sont des dons de Dieu. Et puisque ce sont des dons de Dieu, apprenons à les accueillir comme venant de sa part. Apprenons à nous réjouir, à savourer cela, sans chercher à vouloir plus que la part que Dieu nous donne. Parfois, on est un peu comme les enfants, hein. On leur donne ça, puis ils veulent ça. Et avec Dieu, on se comporte pareil. Tu me donnes ça, j'aimerais un peu plus encore. Apprenons à savourer ce qu'il nous donne. Apprenons à dire notre reconnaissance à Dieu pour cela. On peut noter d'ailleurs au passage que Dieu ne dénigre pas la richesse en tant que telle, puisque c'est lui qui donne des richesses et des biens. Ce qui compte, c'est l'attitude que nous avons à l'égard des richesses et des biens. Si notre préoccupation, c'est la richesse, la recherche de l'argent, eh bien ça ne conduira pas à notre satisfaction. Inversement, si nous nous efforçons d'être reconnaissants envers Dieu pour les dons qu'il nous fait dans sa grâce, alors notre attitude à l'égard de la richesse sera saine et nous pourrons aussi apprendre à profiter sereinement de ces dons qui nous viennent de Dieu. Et comme le dit le verset 19, « Ainsi cet homme ne s'appesantira pas sur sa vie, car Dieu le tient occupé avec de la joie dans son cœur. » Un tel homme est concentré sur Dieu, sur le donateur, plutôt que sur les dons en eux-mêmes. Ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, mais plutôt de mettre notre confiance dans cet argent, ou encore de chercher notre satisfaction et notre joie profonde dans les richesses. Je cite ce que Paul, l'apôtre Paul, dit à Timothée au chapitre 6 de sa première lettre. C'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. On perçoit la même teneur dans les propos de Paul ici et dans ceux de l'Ecclésiaste. Finalement, le maître mot qui résonne fortement dans notre texte, outre celui de la reconnaissance dont on a déjà parlé, c'est celui du contentement. Le contentement est la clé qui nous permet de vivre la situation dans laquelle nous sommes, que ça soit plus qu'elle relève plus de la pauvreté ou de la richesse, ou de l'entre-deux, parce que bien sûr, l'échelle est vaste. Lisons ce que les Proverbes disent, chapitre 30, versets 7 et 9. « Éternel, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » Dans nos prières, quelle place ont les expressions de reconnaissance et de contentement envers celui qui est la source de tout bienfait et de tout don parfait. La pauvreté ou le dénuement n'est pas quelque chose à rechercher ou à valoriser. Elle est plutôt même une conséquence du péché des êtres humains dans le monde. La pauvreté, on le voit, elle produit bien des souffrances, des maladies, la faim, la misère, l'exclusion sociale, l'exploitation et même la violence. Mais la richesse non plus n'est pas à rechercher. Le texte d'aujourd'hui, me semble-t-il, le montre bien. Dans ce monde qui est marqué par la pauvreté et la richesse, avec toutes les déclinaisons possibles, nous sommes invités à la confiance en Dieu, au contentement en Dieu, au contentement et à la reconnaissance en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit au sujet de Jésus en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Je cite ici la note en bas de page de la Bible du Semeur qui porte sur ce verset. La grâce, ici, est la manifestation de l'amour de Christ à l'égard de ceux qui ne le méritent pas. Sa richesse représente tout ce dont il disposait dans la gloire divine avant de venir sur la terre. Il s'est fait pauvre en prenant la condition du serviteur, c'est-à-dire en revêtant la faiblesse humaine. Fin de citation de la note de bas de page. Connaître Jésus-Christ, c'est prendre conscience que en Dieu, nous avons un Père qui est aux cieux et qui prend soin de nous, qui veille sur nous. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour chaque jour. Nous pourrons et nous pouvons trouver le contentement en lui. Ce n'est pas l'argent qui satisfait, mais c'est Dieu qui satisfait et réjouit notre cœur. Nous sommes dans la reconnaissance pour ce qu'il nous donne, pour notre travail, pour notre nourriture, pour notre sommeil. Et c'est une grâce de bien dormir quand on dort bien. Pour notre toit. Certes, il ne nous épargne pas toutes les épreuves de la vie. Et ces épreuves nous renvoient à cette condition humaine dans laquelle nous sommes et qui est marquée par le péché. Et nombreux sont ces êtres humains. Les êtres humains qui, croyant en Dieu ou pas d'ailleurs, souffrent les conséquences du péché, d'une manière forte, voire même parfois extrême. Et bien des actualités nous le rappellent quasiment quotidiennement. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous plaçons notre confiance en lui, nous apprendrons le contentement. Nous apprendrons aussi la reconnaissance et nous prendrons conscience que notre plus grand besoin est assouvi. Non pas tant ces besoins qui viennent un temps soit peu améliorer notre condition dans la vie présente, mais notre plus grand besoin, celui d'être sauvé de nos péchés. Celui d'être sauvé de cette condamnation qui pesait sur nous à cause de nos fautes, de nos désobéissances. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes réconciliés aussi les uns avec les autres. Et nous apprenons à le vivre. C'est une chose de l'être, c'en est une autre de le vivre. Et c'est un tout autre sujet. En Jésus-Christ, nous avons aussi cette espérance qui va au-delà des simples circonstances de la vie présente, mais qui découle aussi du fait que, comme on l'a très bien rappelé ce matin et encore dimanche dernier, il est mort, mais le tombeau est vide parce que Jésus est ressuscité. Et il nous donne cette espérance qui va au-delà de tout ce que nous pouvons voir dans la vie présente.